Bonjour Isabelle Laurent, l'invitée du magazine est spécialiste en chirurgie viscérale et digestive. Elle est intervenue dans le cadre de l'UMA Café de Nantes sur le thème « La fin de vie en question ».
Ce sont des sujets qui sont extrêmement difficiles à traiter.
Déjà, il y a une chose, c'est le rapport, évidemment, le rapport à la mort. Depuis les années 50, le milieu du 20e siècle, on est passé d'un fait qui était constant dans l'histoire de l'humanité, c'est que la mort est un tabou, à tel point que, par exemple, les premières traces d'humanité sont très très souvent des suites des rituels de mort sur les dessins, etc. On est passé de cette phase donc où la mort est un tabou, l'insupportable et insurmontable fin, au déni de la mort. C'est-à-dire que la mort, elle a totalement disparu du champ du débat collectif et surtout de la sociabilisation. Par exemple, on sait que dans les grandes villes en France, plus de 50% des gens de plus de 50 ans n'ont jamais vu un mort. Par exemple, la mort, elle n'est plus, elle est plus à la maison, elle est à l'hôpital. Et y compris les familles, c'est pas seulement le mourant qui est mis dans un ailleurs. C'est la famille qui accompagne le mourant qui est de fait désocialisée. Et donc, en fait, évidemment, un débat sur la mort, c'est un débat qui est difficile à mener. Moi, j'ajoute à ce fait une deuxième hypothèse, c'est que des débats aussi lourds ont besoin du temps du débat démocratique, du temps de l'appropriation, mais aussi de la construction de la pensée individuelle et collective. Et ça va pas bien avec la société du spectacle et le rythme du buzz. Et tout doit aller toujours très vite. Et donc, évidemment, c'est plus facile d'être pour l'euthanasie et pour mourir dans la dignité, etc., que de prendre le temps d'un débat démocratique long, vaste et raisonné.
Sauf qu'on ne parle pas de la mort, on parle de fin de vie.
Oui, mais alors là, on arrive à... Alors, de quoi on veut parler? C'est quoi le sujet? Si le sujet, c'est d'avoir une fin de vie la moins douloureuse possible, et dans douleur, il y a la douleur physique et la douleur psychique, et moi, je pense qu'il faut rajouter le troisième point que j'évoquais tout à l'heure, la douleur sociale, c'est-à-dire l'exclusion sociale de la mort. Mais en fait, c'est pas de ça, de ce dont on parle. C'est pas non plus du fait que les soins palliatifs... On pourra en rediscuter un petit peu, mais moi j'accorde énormément d'importance au mouvement des soins palliatifs, mais il manque cruellement de moyens. Le gros problème de l'application de la loi Leonetti, c'est évidemment un manque de maîtrise, de connaissances, etc., des médecins, mais fondamentalement c'est d'abord un manque de moyens. On est dans un rapport de 1 à 6 entre le nombre de lits de soins palliatifs jugés nécessaires et le nombre de lits de soins palliatifs effectifs. Donc ce dont on parle en réalité, c'est pour ou contre l'euthanasie à la faveur de faits divers qui font les choux gras des médias et du scoop.
Bien, mesdames, messieurs, on ne présente pas le professeur Sicard. Sa notoriété était bien antérieure à la mission que lui a confiée le président de la République, puisqu'il a présidé le comité national d'éthique. Et il a eu une mission de la part du président de la République pour explorer les problèmes de fin de vie. Il a fait un tour de France qui lui a permis, selon sa lettre de mission, de recueillir les sentiments des Français vis-à-vis de la situation de fin de vie.
Moi, je trouve que le débat « être libre », je pense qu'en général, les gens, s'ils étaient libres, ils feraient le choix d'être en bonne santé. Voilà. Donc la notion de choix libre dans cette circonstance, c'est quand même déjà à discuter. Dans la discussion, choix libre de mourir, il y a aussi toute la question de la douleur. Par exemple, on sait qu'un patient qui est demandeur d'euthanasie, si on lui propose un traitement efficace de la douleur physique et psychique, la demande d'euthanasie disparaît quasiment dans 100% des cas. Voilà, déjà, la notion de liberté, elle est quand même à prendre avec des pincettes. Maintenant, moi, je crois qu'il faut quand même voir de quoi on parle. Premièrement, le cas qui est extrêmement fréquent. C'est des gens qui ont des maladies longues, mortelles dans tous les cas, incurables, et qui, lentement, vont mourir. Chez ces patients-là, je crois qu'il est incontestable qu'on est en mesure aujourd'hui de proposer, et la loi Leonetti, telle qu'elle est, voire améliorée conformément aux propositions du rapport Sicard, la loi permet vraiment de proposer une fin de vie, un endormissement finalement, parce que qu'est-ce que c'est ? C'est le traitement nécessaire pour calmer la douleur physique et psychique à un moment est tellement élevé qu'il va accompagner petit à petit les gens vers la fin de vie. Autre débat qui, là, à mon avis, est de l'ordre du débat sur l'euthanasie, c'est le suicide assisté. C'est-à-dire que j'ai une maladie qui ne va pas me faire mourir ou qui va me faire mourir dans très longtemps, mais avec laquelle je peux vivre. Et je demande à la société de me suicider. Je suis en mesure de me suicider et je demande à la société de me suicider. D'abord, moi, je ne suis pas sûre que la société... Parce qu'il faut voir un petit peu dans quoi on rentre. Hein, parce qu'une des grandes avancées pour moi d'ordre anthropologique... C'est la fin de la peine de mort, c'est la fin de la société qui donne la mort à une personne, avec la question des guerres et de la peine de mort. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, moi, souvent, je demande aux gens qui réclament ça, mais quelle douleur pour vous justifie que la société donne la mort ? Un jeune schizophrène, parmi les tentatives de suicide vraiment très sérieuses, personne ne propose qu'un gamin de 20 ans qui saute du cinquième étage, on ne cherche pas à le réanimer et tout. Voilà. Un schizophrène, il souffre terriblement. Est-ce que c'est une souffrance qui justifie qu'on mette fin au jour ? Les personnes âgées, à quel moment on considère que la société elle va se mettre à suicider les personnes âgées ? Ce que je veux dire, c'est qu'on rentre dans un débat où, de fait, se pose la question « Quelle douleur justifie que la société suicide ?» Enfin, il y a les cas archi-exceptionnels, type Vincent Imbert, c'est-à-dire c'est moins de 10 cas par an, de gens qui sont en incapacité physique de se suicider et qui demandent que la société, quand je dis la société, c'est autrui, les suicide. Moi, je ne crois pas que la loi puisse répondre à des cas si particuliers. Je crois que la loi, c'est une réponse au cas général. Et de ce point de vue, je trouve que mener ce débat public, ça rend aussi tout le monde plus intelligent par rapport à la gestion de ces cas si particuliers. Et pour l'heure, d'ailleurs, on voit bien, le jugement a posteriori se traduit toujours par des non-lieux dans ces affaires-là. Donc en fait, moi je pense que pour ces cas qui sont archi-exceptionnels, c'est un jugement a posteriori qui peut dire, voilà, on était dans un cadre acceptable. Et je ne crois pas qu'un texte général puisse répondre à ces cas qui sont toujours très particuliers et toujours très différents et toujours très discutables.
Vous le savez, nous avons la joie et le plaisir d'auditionner M. Sicard aujourd'hui dans le cadre d'une proposition de loi qu'un certain nombre de parlementaires ont déposée sur deux sujets qui sont deux sujets qui auront été évoqués dans son rapport. La sédation dite terminale, dont il faut bien sûr définir l'adjectif, et les directives anticipées.
Premièrement, je pense que si on sort des quelques cas qui ont fait l'objet de publicité volontaire, en général, ça se passe beaucoup plus calmement que dans ces cas-là. Deuxièmement, qu'il y ait un système juridique accéléré pour faire qu'effectivement, quand il y a jugement, le jugement puisse se faire de façon très accélérée. Tout ça, moi, je suis favorable à ça. Simplement, une chose est de juger a priori, et donc on est obligé de répondre dans le cas général. Autre chose est de voir cas par cas, voilà, il s'est passé ça. L'ensemble des protagonistes ont été associés à la décision. En premier lieu, le patient. Deuxièmement, les familles. Troisièmement, l'ensemble des personnels. Et puis, franchement, quand on est dans ces cas si rares, puis il faut comprendre, enfin, il y a une autre chose aussi. Enfin, moi, je suis médecin. Quand vous accompagnez quelqu'un dans la mort, c'est une décision terrible pour un médecin. C'est jamais quelque chose... C'est un échec. Notre métier, c'est de soigner, c'est pas d'accompagner dans la mort. Et donc, moi, je pense que si on se dit qu'a posteriori, dans un cadre totalement collectif, raisonné, etc., peut-être une structure juridique souple, facile, rapidement convoquée, etc., peut décider, est-ce qu'on engage une procédure juridique plus longue ? Voilà, il y a sûrement un équilibre à trouver de ce point de vue-là.
Merci encore une fois de votre présence ce matin. Professeur Sicard.
Je voudrais tenter, non pas de dicter une position aux parlementaires, ce serait démesuré et ce n'est pas ma mission. Ma mission... a été effectivement d'aller au-devant des Français et de mesurer l'écart qu'il pouvait y avoir entre le ressenti. Alors certes, j'ai rencontré 4000 Français, pas forcément représentatifs de la société française, mais dont la liberté de penser, dont la tolérance, dont le respect mutuel m'a beaucoup impressionné et qui contrastait avec ce que j'appelle les postures, c'est-à-dire qu'elles soient médicales, qu'elles soient institutionnelles, qu'elles soient quelquefois religieuses, comme si il y avait une réponse avant la question et que les citoyens posaient des questions et voulaient avoir des réponses.
La loi, elle concerne tout le monde, donc pour tout le monde, il faut assurer une fin de vie sans douleur, etc., accompagnée. Et là, il faudra qu'on discute, par exemple, de l'affaire des soins palliatifs. Simplement, enfin, comment mettre dans une loi que telle pathologie rend acceptable le fait de suicider le malade à sa place. Voilà, c'est donc on va rentrer dans des cas très particuliers, donc il y aura toujours une personne qui échappera à ce cas particulier, et pourtant on pourrait se dire qu'elle pourrait le justifier, etc. Donc, et puis il y a une autre chose, enfin, je trouve que, alors c'est pas pour échapper, hein, mais vraiment très fondamentalement, le problème de masse, c'est tous ces gens qui devraient avoir une prise en charge de la douleur qui ne l'ont pas parce qu'il n'y a pas les moyens de l'avoir. Et dans pas les moyens de l'avoir, il y a les soins palliatifs, les unités de soins palliatifs. Mais dans pas les moyens de l'avoir, il y a les unités volantes. Vous savez, maintenant, il y a plein de formules de soins palliatifs. Il y a l'unité qu'on connaît, qu'on voit à la télé, mais il y a aussi des gens qui sont formés, qui passent de service en service. Il y a une formule que moi je trouve très intéressante, c'est l'unité de soins palliatifs à domicile, la prise en charge de la fin de vie à domicile, où les expériences sont quand même très très intéressantes. Ils travaillent, y compris avec les voisins, etc., pour remettre la mort au cœur de la vie sociale du quartier, de l'immeuble, du village, etc.
Qu'avons-nous appris pendant ces 4 mois et demi? Que les sondages répétitifs sur la demande dite d'euthanasie étaient non pas fondés sur des arguments, mais exprimaient une angoisse collective des citoyens sur le sentiment qu'ils éprouvaient de l'appropriation par la médecine de leur fin de vie. Avec ce sentiment d'ailleurs très paradoxal de demander en même temps à la médecine de sans cesse les réanimer, d'avoir des performances, d'avoir un recul de la mort permanent, et en même temps d'être effrayé par ce que la médecine avait obtenu, avec le sentiment que si l'échec de cette réanimation survenait, l'état végétatif qui n'en finissait pas devenait une souffrance pour l'entourage. C'est donc ce sentiment très ambivalent sur la médecine à qui on demande tout, mais on ne veut surtout pas qu'elle s'approprie la fin de vie, qui est au cœur même de cette réflexion.
J'entendais un cas quand toute la famille n'est pas d'accord. Ce n'est pas seulement un problème de cas particulier du type de maladie, mais c'est aussi le cas particulier du type d'environnement. Voilà. Donc la loi ne répondra jamais à ça. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'il y ait une telle levée de bouclier, un tel lobbying, pour qu'enfin, il y ait les moyens... On estime quand même qu'il y a 70% des gens qui sont en fin de vie, qui ne sont pas correctement pris en charge. Donc moi, j'aimerais bien que quand même, on s'intéresse enfin à ces 70% de gens en fin de vie.
Isabelle Laurent est avec la complicité de l'Huma Café, l'invité du magazine, illustré par quelques extraits de l'audition de Didier Sicard à l'Assemblée nationale.
deuxième point, qui est que la disparition des rites religieux et des rites laïques contribue au déni de la mort, et avec cet éloignement de la mort de la vie quotidienne. Et on demande à la médecine une sorte de visa. On lui demande d'authentifier le fait qu'il n'y a plus rien à faire. Et cette demande peut aboutir à un certain excès, dans la mesure où les services de réanimation passent leur temps à dire qu'on leur demande de réanimer des morts. Et ce sentiment que la médecine doit donner son extrême onction, si on utilise ce mot, en tout cas son visa rassurant ou le fait qu'il n'y a plus rien à faire, aboutit à un excès très impressionnant de la médecine en fin de vie à laquelle on reproche en même temps l'hypermédicalisation et en même temps l'hyperpression. Et cette situation est très particulière à la France, car elle aboutit à confier à l'hôpital les fins de vie de façon, là encore, excessive, puisqu'environ entre 60 et 70%, et les chiffres ne bougent pas, ils ont même tendance à s'aggraver depuis quelque temps. On voyait dans ce film sous le figuier avec Madame Casadesus, qui a 99 ans, et à la fin de sa vie, cette femme a 99 ans dans le film, eh bien ses enfants l'envoient à l'hôpital dans les derniers jours. Et on voit que cette fin de vie, même à 99 ans, justifie une expertise médicale pour savoir s'il n'y a rien à faire. Donc devant cette situation assez spécifique à la France, les citoyens sont inquiets. Et on finit par exiger que leurs paroles soient entendues. Or, s'il y a un domaine auquel on reproche à la médecine contemporaine d'être sourde, c'est à la parole du malade ou à la parole de la famille.
Je suis convaincue d'une chose, c'est qu'il faut resocialiser la mort. Il faut que la mort redevienne un fait de la vie. Et aussi pour la mort, c'est une douleur incommensurable. Et la médecine ne va pas enlever cette douleur incommensurable. Perdre l'autre, définitivement l'autre, il n'y a pas de médicament pour soigner ça.
Quand je disais qu'on parle de fin de vie, la question, ce n'est pas la question de la mort, c'est la question de dire, bon, c'est 3 mois, 4 mois, 5 mois, 2 ans, 3 ans, maladie incurable. On est dans l'accompagnement de fin de vie et on n'est pas dans la problématique de la mort.
Je comprends bien ça, mais simplement, ce que je veux dire, c'est que des mirages de l'affaire de l'euthanasie, ce serait qu'on souffrirait moins de mourir, ou on souffrirait moins de perdre quelqu'un. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de médicaments. Voilà. Par contre, ce que je pense, c'est que l'accompagnement social, la socialisation du fait, est le fait de re-ritualiser, de remettre du rituel, de l'accompagnement, etc., est nécessaire. Deuxièmement, je trouve très intéressante votre question telle que vous la posez, c'est-à-dire vous ne parlez pas de fin de vie dans les 5 derniers jours, mais vous parlez de maladie incurable. Et ça, c'est aussi un argument pour moi qui est très fort. J'ai commencé, j'étais nommée chef de interne en 90 et chef de clinique en 95. Moi, j'ai commencé mon boulot souvent, il y avait un cancer, c'était guéri ou... Enfin, on était guéri, on était mort, quoi, de façon un peu schématique. Et c'est vrai que depuis que j'exerce, on a vu des progrès incroyables de la médecine, notamment de la chimiothérapie, enfin des traitements médicamenteux, qui fait qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est que des gens qui ont une maladie incurable, un cancer dont on sait qu'ils ne vont pas guérir, on leur propose une vie la plus longue possible et dans les meilleures conditions possibles. Donc, ils sont de l'ordre du soin palliatif. On n'est pas dans le curatif, on est dans le palliatif. Et cette prise en charge très en amont de la fin de vie, ça permet aussi de gérer la fin de vie différemment. C'est-à-dire, on ne va pas au mouroir. Et c'est la question de la douleur, de tout ce qui accompagne cette fin de vie. Et aujourd'hui, on voit des gens qui ont des cancers. Moi, j'aurais dit au début de mon exercice qu'ils avaient 3 mois d'espérance de vie. Et aujourd'hui, on voit des gens qui ont des cancers, dont moi j'aurais dit au début de mon exercice qu'ils avaient 3 mois d'espérance de vie, qui vont durer 1 an, 2 ans, 3 ans, sans qu'on puisse dire au début si ça va durer 3 mois ou 3 ans. En plus, nous n'avons pas de... Enfin, on a un certain nombre de critères, mais on n'est pas dans le 100%. Il y a des patients qui répondent très bien à la chimio, d'autres qui ne répondent pas. Et donc, évidemment, on ne peut pas inscrire ces gens-là dans l'immédiateté de la mort, ni eux, ni leur famille. Donc, c'est pour ça que moi, je crois que le développement des soins palliatifs, c'est le développement d'une culture. C'est d'une culture médicale, mais c'est d'une culture de la société. C'est-à-dire que, voilà, on peut avoir un cancer et continuer à aller bosser. Alors, peut-être qu'on va bosser à mi-temps, peut-être qu'on va avoir des moments où on va bosser, puis des moments où on va arrêter de bosser, mais on continue d'être une personne à part entière.
Nous avons fini par conclure 2 ou 3 choses. La première, c'est qu'il était extraordinairement étrange que les patients s'expriment sur des euthanasies telles qu'elles existent dans le Benelux ou suicide assisté en Suisse ou en Oregon et qui fascinent la population comme si là il y avait une sorte de progrès humain, un progrès culturel. Et l'indifférence avec laquelle Notre société traite les fins de vie banales, c'est-à-dire notre fin de vie, ma fin de vie, comme si notre société avait considéré que le mourir était un moment sans importance et qu'il ne devait pas gêner trop les vivants, il ne fallait pas que les agonies se prolongent, comme si l'attente du mourir était devenue de plus en plus intolérable pour notre société. Et donc cet écart entre l'indifférence de la fin de vie collective et puis cette exigence d'une fin de vie où la médecine pouvait éventuellement intervenir était très, très étonnante parce que notre société, en même temps, nous comprenions les sondages et en même temps, on voyait que la complexité ressentie par les citoyens était non pas d'être euthanasié, mais d'avoir une fin de vie sur laquelle ils pouvaient agir et pouvaient demander à la médecine de les aider à mourir. Et cette antienne permanente de ne pas être abandonné, bien sûr de ne pas souffrir, mais les citoyens nous disaient souvent que ce n'était pas tellement la question de la souffrance, c'était la question, au fond, d'une fin de vie qui s'éternisait et avec les progrès actuels de la médecine, de pouvoir très simplement y mettre fin dans la douceur, dans le respect de leur demande. Et ils avaient le sentiment que la médecine avait confié aux soins palliatifs la responsabilité de cette fin de vie, avec le sentiment, là encore, que ces structures, quelle que soit leur excellence et leur qualité reconnue, et même d'ailleurs en Europe comme une des meilleures d'Europe, étaient nécessairement confrontées au tri des personnes et ne pouvaient pas donc accueillir, en dehors des malades atteints de cancer, atteints de douleurs épouvantables, ne pouvaient pas accueillir les 490 000 ou 500 000 morts, qui seront 500 000, 550 000 dans quelques années, 600 000, et que les soins palliatifs finissaient par apparaître comme une réponse, non pas inadaptée, mais une réponse qui, collectivement, ne résolvait pas le mourir en France, et que ce qui revenait sans cesse dans l'expression des citoyens, qui était le laisser mourir, laisser vivre, cette sorte d'attente où la médecine, au moment ultime, pouvait simultanément se retirer et ne pas proposer d'alternative aux soins palliatifs, était angoissante.
On parle de questions de personnes à part entière. Moi, je pense aussi que dans cette idée de culture de la mort, de re-socialiser la mort, ce qui me frappe très souvent dans les patients, parmi les patients que j'accompagne en fin de vie, et c'est, je dois dire, pour moi, la vraie difficulté. C'est des gens qu'on accompagne, qu'on soigne, à qui on enlève la douleur, enfin à qui on traite la douleur, à qui psychique, physique, etc. Sauf que dans cette société du plus beau, du plus fort, du plus beau, la plus star, ben, la femme, elle n'a pas toujours le courage de se maquiller le matin. Puis elle n'a pas toujours le courage de se soigner, de se coiffer. L'intellectuel, on vient le voir et on ne lui parle plus de livres. Le militant politique, on vient le voir et on n'ose pas lui parler de politique. C'est-à-dire que le malade n'est plus une personne. Le malade est devenu un malade. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Même quand on est malade, même quand on est très malade, même si on chemine lentement vers la mort, on continue d'avoir un regard critique sur la société. Quand on a été un prof, on continue à vouloir lire et à vouloir savoir ce qu'il y a dans le journal. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que donner... Mourir dans la dignité, pour moi, ça y participe. C'est être considéré comme une personne. On continue à être un parent et on ne devient pas un enfant infantilisé par ses propres enfants. Et donc, la question de la culture de la mort, pour moi, collectif, participe vraiment du fait que d'une fin de vie de qualité. Pour moi, les soins palliatifs, donc c'est évidemment des moyens, je disais, en structure, etc., multiples, mais c'est aussi... évidemment des enseignements à la fac, etc., mais c'est réinstruire ce dossier dans la société. Et c'est pour ça que je suis très, très, très fâchée. Enfin, le fait qu'une association s'appelle Mourir dans la dignité parce qu'elle plaide l'euthanasie, je pense que non seulement, quelque part, on regarde l'arbre qui cache la forêt, mais surtout, je pense que ça dénature profondément le rapport de la fin de vie dans la société. C'est pas zéro ou un, c'est pas je vis ou je meurs. Donc de ce point de vue, c'est l'image que le malade a de sa place dans la société et l'image que la société continue de donner à une personne qui, elle aurait pu se casser la jambe, elle a un cancer grave, mais elle reste totalement une personne. Paradoxalement, pour les maladies type cancer, il reste extrêmement rentable hein, parce que les médicaments innovants, les molécules innovantes, comme on dit, pendant qu'on nous bassine sur les génériques, il y a une chose qu'on ne discute jamais, c'est le prix de la mise sur le marché des molécules innovantes qui est totalement exorbitant et hors de tout propos. Et moi, je suis beaucoup plus préoccupée...
Oui, mais rentable pour l'industrie pharmaceutique, pas forcément pour le Sécu.
Oui, mais vous savez, avec toutes les logiques de codage, etc., la logique qui s'est marchande, qui s'est mise en place dans le système de santé, que ce soit à l'hôpital public ou dans les structures privées, où il faut avoir des actes, où il faut avoir des... C'est de façon... Enfin, moi, je pense que c'est une logique, de toute façon, totalement coûteuse, totalement inflationniste, sauf que l'inflation, c'est pour faire marcher un marché... le coût rentable pour l'industrie du soin, la marchandisation du soin en général. Mais je suis beaucoup plus préoccupée pour les personnes âgées, moi. Personnellement, je pense que quand, à côté de ça, le système de retraite, dans une situation d'une société de précarité de plus en plus longue du côté des jeunes et d'intermittence de période travaillée et non travailler, ça veut dire que les gens à 70 ans n'auront pas leurs annuités en vérité. Et donc on va avoir des gens qui n'auront pas, qui seront pauvres, hein, qui seront pas solvables pour le marché de la santé en masse hein, dans le grand âge. Donc outre l'ouverture sur les fonds de pension qui se profile comme le nez au milieu du visage, moi je suis très préoccupée du devenir de toutes ces personnes âgées pauvres qui ne seront pas solvables si on ouvrait cette affaire d'euthanasie.
Merci à Isabelle Laurent pour sa libre participation à ce magazine réalisé avec la complicité de l'UMA Café de Nantes.